matin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque mois, je reçois les tchatcheuses, nos voisines journalistes de différents pays pour commenter l'actualité de leur choix. Aujourd'hui, dialogue avec Paola Martinez, journaliste chilienne. Hola Paola.
Hola Emmanuel.
Ravie de vous retrouver. La norvégienne Vibeke Knoop, Rachlin. Hi.
Hi Emmanuel.
Notre tchatcheuse norvégienne pour le journal Aftenposten. Et peut-être au téléphone, notre tchatcheuse indienne, Vejuna Ravan, qui est coincée entre deux aéroports, qui a quitté Francfort. Ça ne l'empêchera pas, à mon avis, de pousser un petit coup de gueule, comme elle sait le faire, directement en ligne dans l'émission. Nous parlerons avec vous, mesdames, de l'image de la femme dans la campagne américaine, du conflit Inde-Pakistan version Bollywood, ou de l'urbanudisme en Argentine, ou encore de la première femme voilée qui pose pour le magazine Playboy. Et quant à vous, bien sûr, les voisines, si vous êtes journaliste dans votre pays, vous pouvez tout à fait nous appeler pour nous parler d'un sujet qui fait débat chez vous. Quand je dis chez vous, c'est-à-dire dans la société, ça peut être dans le bus ou au travail, on en parle chez vous. Alors vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et pour tous les voisins, bien sûr, vous n'êtes pas exclus, vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tous vos commentaires.
Cuéntame que te pasa.
I would like to make a few comments.
Ça commence à passer ça.
Si tu peux me laisser aller jusqu'au bout, s'il te plaît.
Tchatcher, ça veut dire bavarder, discuter, exagérer.
Tu veux bien me répéter ça?
Tchatcher, c'est parler avec plaisir.
Mais je veux dire, soyons clairs là, je veux dire.
Oh.
Sinon.
I beg your pardon.
Tu vas. Non, mais si.
Ce sera tout.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
50 minutes de tchatch, c'est parti. Mesdames les tchatcheuses, vous réclamez la parole d'abord sur la campagne américaine. Quelle image de la femme dans cette foire d'empoigne?
I'd look her right in that fat, ugly face.
She's gotten a little bit large. I don't think you should dress like you weigh 120 pounds.
I don't want to sound too much like a chauvinist, but when I come home and dinner's not ready, I go through the roof.
A person who's flat-chested is very hard to be a 10.
In this election,
dans cette élection,
we have a...
nous avons un candidat à la présidence des États-Unis qui, tout au long de sa vie, tout au long de sa campagne présidentielle, a dit des choses à propos des femmes tellement choquantes, si avilissantes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de la politique ordinaire. Il est temps pour nous tous de nous lever et de dire que trop, c'est trop.
Et Michelle Obama, juge arbitre, gardienne de la dignité des femmes. Je vous livre quand même juste avant la traduction du florilège des petites femmes, des petites... Oh là là, quel lapsus, des petites phrases de Trump. Ça s'analyse, voilà. En gros, il disait, elle est un peu grosse. Je ne pense pas que tu devrais t'habiller comme si tu faisais 55 kilos. Je ne veux pas passer pour un chauvin, mais que quand je rentre à la maison et que le dîner n'est pas prêt, je deviens dingue. Une personne qui n'a pas de poitrine aura beaucoup de difficultés à être un 10. Voilà, Vibeke Knoop, Rachlin, la campagne américaine. C'est aussi cela, malheureusement.
C'est devenu cela. Je pense que ce n'était pas forcément prévu au départ, mais comme ça ne va pas très bien depuis quelque temps pour M. Trump, il a décidé de jouer cette carte. C'est assez étonnant de voir que, bien sûr, toute l'Amérique est indignée, à commencer effectivement par Michelle Obama, qui a fait un magnifique discours. Mais ses électeurs à lui ne sont pas vraiment choqué que l'on donne aujourd'hui, en 2016, cette image franchement dégradée alors, de la femme.
En gros, il y a la femme, selon Trump, objet sexuel et maternel, versus en face, la femme, selon Hillary, ambitieuse, calculatrice, froide, et l'américaine dans tout ça, finalement.
Ben, l'américaine, elle a peut-être du mal à s'y retrouver. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que c'est en grande partie cette recherche, cette quête de trouver un sens non seulement à son rôle de femme ou d'homme, mais de trouver son rôle tout court, d'essayer de voir un futur autre que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent, qui pousse les électeurs de Trump.
Mmh. Paola Martinez.
En fait, moi, je ne suis pas si étonnée que ça que Trump. Et je pense qu'il n'a pas décidé de faire ça dans son increcendo des provocations, notamment il a finalement tombé par se dévoiler lui-même, hein, parce que moi déjà j'étais très étonnée de qu'il soit candidat avec toute l'histoire, l'historique qu'on le connaît, hein, c'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il était très très ami, disons, de ces soirées un peu playboy, etc. Enfin bref, et en plus là il se dévoile tel qu'il est. Je trouve ça aussi encore dommage qu'encore une fois dans une société 21e siècle, il faut, on est d'accord, on n'est pas au 14e siècle ni au Moyen-Âge, on est encore au stade de se demander si les femmes d'une part ils sont capables ou pas de gouverner un pays. Je trouve ça quand même inadmissible et assez dérisoire dans un pays comme les États-Unis. Mmh. Et d'une autre part aussi, de voir à quel point en fait un homme peut provoquer autant de haine, parce que c'est aussi, c'est une question aussi de verser tout sa haine en fait envers justement ces...
Oui, mais ce qui est intéressant, je trouve, ce sont les réactions. Aussi bien aux États-Unis que, en fait, surtout à l'étranger. Aux États-Unis, ça a permis de libérer la parole de beaucoup de femmes qui, certaines, se sont déclarées qu'elles avaient été agressées d'une manière ou d'une autre par Trump ou agressées tout court par quelqu'un d'autre.
Oui, là, on est vraiment dans la guerre des attouchements sexuels. Ouais. Oui, en Norvège, par exemple, comment
ça réagit ? Justement, alors là, c'est le contraire. Ça a libéré la parole des hommes. Ils ont créé un groupe... bon, c'est peut-être pas directement à cause. Oui, c'est peut-être pas directement à la suite des déclarations de Trump, mais du coup, ils avaient un groupe où ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient réellement. Parce que ça fait longtemps, je crois, que certains hommes, effectivement, en Norvège, se sentaient là oppressés par les femmes qui ont pris le pouvoir, qui les empêchent d'être comme ils ont envie d'être.
Et mais du coup, ils ne sont pas harcelés. Ce n'est pas la même chose.
Encore une fois, certains se sentent peut-être un peu harcelés.
Donc c'est quoi ? C'est un groupe d'hommes qui se réunissent pour...
Non, pour l'instant, ils ne se réunissent pas. C'est uniquement sur les réseaux sociaux.
D'accord. Mais pour se parler de leur masculinité perdue, c'est ça ?
Et de dire, d'oser dire, donc écrire sur leur ordinateur des choses franchement salaces. Hein. Et d'être un peu menaçant à l'égard de certaines femmes qui se sont élevées et contre...
Moi, ces propos, ils me rappellent, en fait, parce que vous savez qu'au Chili, il y a Michel Bachelet qui fait son 12e mandat. Il a été aussi victime...
Et en Norvège, une femme première ministre.
Voilà, il a été victime aussi énormément des propos complètement déplacés, dérapés de la part des hommes lorsqu'elle était soit en campagne, soit aujourd'hui, quoi qu'elle est grosse, elle est ceci, elle est cela. Donc il y a toujours dans la politique, je pense, internationale, évidemment avec des degrés différents, on aura assister, et on va continuer à assister encore une fois à ces genres de manifestations.
Juste une dernière chose très rapidement. En France, regardez ce qui s'est passé, je crois que c'était la semaine dernière, une députée en pleine assemblée qui ose accuser ouvertement un ministre, en l'occurrence Jean-Michel Baylet, d'avoir été plus qu'incorrect avec une femme et de l'avoir laissée toute nue s'enfuir, etc. Et ça, je pense que c'est un peu, encore une fois, dans le sillage de ce qu'on voit aux États-Unis.
Pour revenir justement aux États-Unis, est-ce que vous n'êtes pas étonnée tout de même que le sujet des femmes soit à ce point-là présent dans... Alors, ce n'est pas un sujet de campagne, mais c'est quand même des coulisses qui sont omniprésentes dans la campagne, dans un pays où le vrai sujet, c'est quand même la pauvreté, ce sont les inégalités sociales, beaucoup plus que les inégalités hommes-femmes aux États-Unis, il faut quand même le dire. Là, on a plus de 45 millions de pauvres.
Oui, et moi je pense qu'en même titre, il y a d'autres sujets dans lesquels Trump il a été mais infect avec ses propos, notamment l'immigration, les musulmans, etc., même les Mexicains, dans lesquels il a tenu des propos horribles. Et je pense qu'effectivement, d'une part, ces dérapages, qui n'est pas tellement un dérapage, elle excuse en quelque sorte l'incapacité, notamment dans cette campagne, de faire face à ces vrais sujets, comme c'est la pauvreté, la sécurité sociale et tant d'autres sujets qui sont beaucoup plus importants.
Et ne serait-ce qu'au niveau des impôts aussi. Qu'il ose, il est candidat à la présidence des États-Unis et il ose dire en face pour les Américains qu'il ne paye pas d'impôts et qu'il s'en porte très bien.
Bon voilà, deux tchatcheuses effondrées par la tournure que prend la campagne qui bientôt va se terminer, Dieu merci. Vous restez avec nous, mesdames les tchatcheuses, dans quelques instants on sera en ligne avec la tchatcheuse qui nous manque dans le studio aujourd'hui mais qui est au téléphone avec nous. Ça sera juste après la Savès. Boys in the hood running upside down, they're chasing Leo, chasing Leo. Keep your head down, keep your head down. So the boys chasing Leo, chasing Leo. Boys in the hood running upside down. Aves et Léo, ça vous dit quelque chose?
Ah, si, moi je connais très bien. Je suis allée en concert avec mes deux enfants et on a passé une super soirée avec ces groupes.
Alors revenons à l'actualité sérieuse, Paola Martinez Infante, parce que vous êtes une journaliste chilienne profondément déçue des résultats, du résultat du référendum raté en Colombie sur l'accord de paix avec les FARC, plus ancienne guérilla d'Amérique latine. La déception, c'est votre état d'esprit aujourd'hui. On va le rappeler, hein, on a eu 50,2% oui. des votants qui ont répondu non à la question. Soutenez-vous l'accord final pour la fin du conflit et la construction d'une paix stable et durable?
Ouais, j'étais très déçue, j'étais très surprise aussi, parce que tout indiquait Santos et le gouvernement, que les gens allaient voter pour ces oui au processus de paix. Il faut rappeler que c'est 50 ans de guerre entre les FARC, le gouvernement et les paramilitaires. Il ne faut pas les oublier, bien entendu. Et donc, les 2 octobre dernier, les gens ils ont dit non. J'étais très surprise. Au début, c'était une grosse déception, mais après, j'ai commencé un tout petit peu à m'intéresser et essayer de trouver pourquoi les gens ils ont dit non. Et c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que ce n'est pas juste on ne veut plus la paix. Ça serait ridicule de penser que les gens ne veulent plus la paix, ils veulent arrêter en fait ces conflits qui a fait 220 000 victimes depuis ces 50 dernières années. Mais après, il y a des points dans ces processus de paix qui ont été entamés depuis 4 ans avec les FARC à Cuba, parce que c'est là que ça a commencé, dans lesquels les gens ne sont pas d'accord pour certains points qui sont très très spécifique à la Colombie, notamment la partie donnée aux FARC, aux certains représentants une portée politique.
Voilà, notamment les droits qui seraient donnés aux anciens guerriers russes pour entrer dans une vie politique
après,
normale.
La justice, elle ne fera pas vraiment. Il y a une justice transitionnelle qui ne sera pas vraiment
alors,
une justice.
Vous, en tant que journaliste chilienne, vous comprenez cette forme de meurtrissure, finalement. Et toute la question, comment terminer une guerre sans donner le sentiment que la réparation a été oubliée?
Voilà. Et surtout, ce qui m'a énormément frappée, ça m'a fait des rappels énormes sur mon pays qui a vécu 17 ans de dictature, évidemment en gardant toutes les proportions que cela signifie, c'est une société qui est profondément divisée aujourd'hui. C'est ça qui est difficile à continuer en fait dans ces processus de paix, en sachant que la moitié des Colombiens, ils ont dit oui, et l'autre moitié, il a dit non. Mais il y a toujours une lueur d'espoir et c'est ça que je veux aujourd'hui donner un peu comme mon côté positif.
Place Bolivar à Bogota, c'est
Place
ça
Bolivar
alors...
à Bogota, les gens ils ont commencé à camper depuis les 5 octobre dans les rues pour dire nous on veut un processus de paix solide, on veut continuer cette bataille, on ne veut plus que cette bataille pour la paix soit sur les épaules des élites, parce que les élites, il faut dire, la position colombienne, elle ne veut surtout pas la paix avec les FARC. Les FARC aussi, ils veulent négocier d'une façon différente ces paix.
Donc vous seriez place Bolivar?
Je serais place Bolivar si mes moyens me le permettraient, mais je ne suis pas.
Mais le
c'est pour
prix
ça
Nobel
que c'est
de la paix, ça n'a rien arrangé, le fait que
rien
Santos veuille donner l'argent au peuple colombien?
Non, au contraire, justement, le 10 décembre, les gens, ils ont peur que cette prix Nobel de la paix soit une farce, car il a décrété tout de suite après avoir reçu ce prix Nobel de la paix le 7 octobre, que le 31 décembre, il y avait encore ces processus de paix qu'il allait continuer. On est d'accord. Mais là, c'est encore un terrain fragile. C'est pour ça, et j'ai fini, la société, elle fait son travail pour pousser aux élites à aller jusqu'au bout de cette impasse.
Voilà, c'était le coup de gueule de Paola Martinez et vous avez bien fait d'être là. Dans quelques instants, on donne la parole à notre tchatcheuse indienne, Veijoo Naravanan, car même quand les avions sont contre elle, elle n'abdique jamais. Le conflit Inde-Pakistan version Bollywood, ça sera le coup de gueule de Veijoo dans quelques secondes. मुझों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के Bonjour Veijoo Naravanan, vous êtes au téléphone avec nous, vous souhaitez...
Oui.
Alors dites-nous pourquoi vous voulez nous parler de ce conflit qui dure depuis plus de 60 ans, le conflit Inde-Pakistan. Vous savez bien que dans notre émission, on n'est pas très axé sur la géopolitique, mais vous voulez surtout nous parler de ses répercussions dans l'industrie du cinéma indien.
Oui, c'est absolument épouvantable parce que effectivement, il y a des attentats terroristes en Inde qui sont parfois commandités ou instrumentalisés par les services secrets pakistanais. Il y a pas mal de terroristes pakistanais qui viennent sur le territoire indien pour commettre les attentats. Ça, c'est une autre chose. Mais à l'intérieur de l'Inde, il y a des partis ultra-hindouistes qui disent qu'effectivement, à cause de ça, on doit punir la population pakistanaise entière, donc arrêter toute coopération artistique, arrêter, boycotter les chanteurs.
Alors concrètement, ça veut dire quoi justement à Bollywood, pour en venir au fait?
Bollywood, parce que revenir au fait, il y a un metteur en scène très connu, extrêmement populaire, un jeune, qui a pris dans son film les acteurs pakistanais. Et souvent, ça se passe que les acteurs indiens jouent dans les films pakistanais et vice-versa. Ce film a été tourné il y a bien 8 ou 10 mois quand il n'y avait pas du tout ce accru de tension entre l'Inde et le Pakistan. Mais le film devait être distribué et dans les écrans, sur les écrans, à partir d'aujourd'hui.
Avec notamment le comédien très connu pakistanais qui s'appelle Fawad Khan, c'est ça?
C'est ça, c'est absolument ça. Il est très beau, il est très talentueux, il est dans ce film. Et il y a certains partis dans le Maharashtra qui ont menacé d'attaquer les cinémas où ce film sera à l'affiche. Et donc, effectivement, les distributeurs ont décidé de ne pas distribuer le film. Et pire, c'était que ce jeune metteur en scène est allé faire son apologie, demander pardon à la télévision, disant que désormais, je ne prendrai plus les acteurs pakistanais. Je trouve que c'est une bien triste jour pour tout ce qui est l'art, la culture.
C'est ça, déjà pour le 7e art.
Oui, voilà.
Donc vous êtes effondrée, finalement, Veijoo, là-dessus.
Je suis effondrée parce que je trouve que l'Inde commence à devenir un pays de moins en moins démocratique où il y a une certaine majoritarisme hindouiste qui joue et il voit le Pakistan comme le ennemi, n'importe quelle chose.
Donc désormais, chacun chez soi, Bollywood avec des acteurs indiens, et puis l'Hollywood, puisque là, ce sont les films qui sont fabriqués
de
Lahore. Au Pakistan, mais évidemment, c'est une industrie qui est beaucoup moins florissante. Vous restez avec nous, Veijoo. On va vous reprendre juste après le flash. Paola Martinez et Vibeke Knoop-Rachlin, nos tchatcheuses norvégiennes et chiliennes, sont dans le studio. Suite des débats avec vous, ce sera juste après le flash 7 milliards de voisins. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Vous restez avec nous, avec Veijoo. On parlera du problème des femmes et de leur belle famille en Inde. Oui, avec vous, Vibeke, on parlera de tout ce débat autour de ces fameux romans qui se retrouvent assignés en justice. Restez avec nous, retour dans 3 minutes maintenant, après le flash sur RFI.
Découvrez 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins et de voisines, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Aujourd'hui, vous connaissez le principe, des femmes journalistes de différents pays qui se retrouvent autour de la table et également au téléphone quand elles ont raté un avion pour débattre des sujets qu'elles ont choisis en toute liberté, souvent des sujets de société. Paola Martinez, journaliste chilienne, Vibeke Knoop-Rachlin, journaliste norvégienne, Veiju Naravan, vous êtes toujours au téléphone avec nous, journaliste indienne. Veiju, vous souhaitiez attirer notre attention sur une récente décision de justice en Inde. Alors, tout le monde sait que la tradition en Inde impose bien souvent aux femmes de vivre avec leur belle famille, donc avec la famille de l'homme qu'elles épousent. Et une décision de justice récente vous interpelle, voire vous scandalise, Veiju.
Absolument, je trouve qu'il y a eu beaucoup de décisions de justice indienne récemment qui me scandalisent, mais celle-là en particulier, parce qu'il y avait une femme qui a demandé la séparation avec sa belle-famille. Elle voulait vivre séparément avec son mari, parce qu'effectivement...
Vous voulez dire, elle voulait vivre avec son mari sans sa belle-famille.
Oui. Voilà, séparée de sa belle-famille. Parce qu'elle ne s'entendait pas du tout avec sa belle-mère. Elle lui dit que la belle-mère faisait des vacheries à elle, mettait trop de sel dans la cuisine, des choses comme ça.
Oui. Les éternels sujets que l'on retrouve dans les feuilletons, d'ailleurs, de Bollywood.
Absolument. Et alors, la cour a décidé que le mari pouvait effectivement divorcer cette femme parce qu'elle refusait de vivre avec ses parents, étant donné qu'il était fils unique. Et les beaux-parents ont dit « Non, non, on a besoin de notre fils et on a besoin que notre fils s'en occupe de nous. » Et le jugement a déclaré que c'était le devoir de la femme de s'en occuper de ses beaux-parents, surtout quand le mari était un fils unique et que les parents de celui-ci n'étaient pas très bien dotés dans la vie.
Oui. Donc, ça veut dire finalement que ce refus... la justice, finalement, et la presse, ça a été relayé comment, le débat, finalement, que c'était une violation des traditions hindoues d'oser demander de ne vivre qu'avec son mari sans sa famille?
Mais c'était très divisé, la presse, hein, sur le sujet, parce qu'il y avait certains journaux, surtout dans les régions indiennes, etc., qui ont dit que c'est normal, parce que c'est comme ça qu'une bonne femme, bien élevée, elle devait s'en occuper de ses beaux-parents, tandis que beaucoup d'autres journaux, plutôt nationaux, plutôt anglophones, ont dit que non, aujourd'hui, la femme en Inde devait être libre de choisir avec qui elle veut vivre, et on ne devrait pas imposer à elle qu'elle passe sa vie à servir ses beaux-parents.
Mais pour vous, ça signe quoi, cette décision de justice? Il n'y avait pas eu, finalement, tant que ça, de décision de justice de ce type auparavant? C'est quelque chose d'assez nouveau, parce que ces frictions entre les femmes et leur belle-famille, ça ne date pas d'hier.
Non, ça ne date pas d'hier, mais jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont souffert en silence. Cette fois-ci, c'est le mari qui a porté l'affaire devant le juge en demandant un divorce. Et le divorce a été accordé. Oui. C'est ça qui est absolument surprenant. Plutôt que dire, écoutez, vous pouvez loger les beaux-parents quelque part, bien, soutenir à leurs besoins, mais vivez séparément.
Ou dire tout simplement, réglez ça entre vous, mais nous ne vous donnerons pas, on ne vous donnera pas raison. Un homme peut également demander le divorce si sa femme refuse des relations sexuelles pendant une longue période. L'acte est considéré comme étant de la maltraitance morale, je crois, c'est ça?
Oui, et l'autre chose qui est très choquant, c'est qu'effectivement, une femme ne peut pas refuser les avances sexuelles de son mari.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas la notion de viol.
C'est ça. Ouais, sinon, on considère qu'elle le maltraite moralement si elle se refuse à lui. D'accord. Réaction, madame les tchatcheuses en studio, Vibeke.
C'est assez effarant. Je croyais que l'Inde était un peu plus en avance sur ces problèmes. Je ne sais pas quoi.
Paola.
Je suis. Bouche bée, parce que c'est un monde parallèle qui ne me parle pas, mais pourtant ça existe bel et bien. Et c'est assez difficile à y croire, en fait, des situations comme ça dans laquelle on donne raison pour des raisons absolument étranges.
Et comme il s'agit même de l'Inde, ça veut dire que ce sont des milliers de femmes qui sont dans cette...
La place de la femme, encore une fois, sur la sellette.
Je voudrais juste ajouter que vraiment, dans la période actuelle, avec ce gouvernement majoritairement hindouiste qui est au pouvoir, on est en train de pousser les femmes indiennes vers un ancien modèle où la femme est censée être complètement soumise, d'être à la service de sa famille, et la famille est pendue. Et on est vraiment en train d'entrer dans un air, je crois, de régression. De point de vue d'émancipation féminine.
Ce qui va rendre difficile évidemment le travail des associations et des ONG qui œuvrent depuis plusieurs décennies pour l'émancipation des femmes en Inde et la défense de leurs droits. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Veijou Naravanan. La prochaine fois, vous serez en chair en os dans le studio avec les tchatcheuses. Merci infiniment. Vibeke, vous lisez pas mal de romans, Vibeke.
Je lis des romans et je lis aussi des choses autour des romans.
Et vous interrogez justement sur ces écrivains qui se retrouvent maintenant assignés en justice.
Oui, d'une part, dans des pays comme en France, les tribunaux sont de plus en plus sévères quand les écrivains ont emprunté un peu trop, on va dire, à soit l'un de leurs, quelqu'un de leur famille, soit quelqu'un de leur entourage, soit à une histoire qui leur est arrivée. Pas plus tard que ce matin, il y avait dans un grand journal norvégien une interview avec une femme dont le mari écrivain a écrit, mais vraiment, tous les détails intimes du couple, leur divorce, elle était
sous couvert d'un roman, bien sûr.
Oui, et elle était effondrée. Elle a dit « Ma vie à moi est foutue ». Donc, c'est une question...
Mais pour un écrivain comme celui-ci dont vous nous parlez en Norvège, que se passe-t-il ?
En Norvège, je crois que pour l'instant, il n'y a pas trop de suite, sauf si elle porte plainte contre lui, mais qu'elle dise dans une interview que ma vie est foutue, ça ne va peut-être pas aller beaucoup plus loin. Mais en France, par contre, ça va très loin. Si on prend comme exemple, même si ça fait 2 ans, je crois, livre que Marcella Jacob a écrit sur DSK, finalement, elle a été condamnée à une peine très sévère, verser 50 000 euros à DSK.
Et le livre d'Édouard Louis aussi
Oui, aussi. Là, je crois aussi qu'il y a une poursuite judiciaire. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples. Et c'est valable dans tous les pays. Aux États-Unis, vous avez l'écrivain Philip Roth, qui a écrit un livre sur sa femme. Alors là, c'était assez drôle, parce qu'elle a répondu par un livre sur lui. Ouais. Donc, alors d'ailleurs, il a une façon de voir les choses assez incroyable.
On règle ses comptes via la littérature.
Il dit, quand un écrivain naît dans une famille, alors la famille est foutue. Donc
voilà,
effectivement,
c'est Philip Roth.
C'est Philip Roth et c'est un peu... Et en France, on a le maître Serge Dubrovski, qui a eu 4 épouses et qui a fait 4 livres sur eux. Et l'une d'elles s'est suicidée, apparemment. Lui, il appelle ça une autofiction. C'est pas mal comme définition. Et en fait, lui, en particulier, sa vie et son œuvre n'en font qu'une.
Alors, ceci dit, c'est quand même rare que les livres soient saisis, soient interdits de publier. Effectivement, il peut y avoir des décisions de justice avec des peines financières assez lourdes.
Oui,
mais sinon, il y a eu... nous, on a cherché un peu, il y a eu le livre sur la santé de François Mitterrand, Le grand secret d'un médecin qui avait été effectivement saisi pour violation du secret médical. Mais c'est quand même très rare qu'un livre ne puisse pas être publié.
C'est très rare en France parce que...
Mais chez vous, c'est impensable. C'est ça que vous nous dites.
Je ne sais pas exactement parce que le phénomène est trop récent pour que l'on sache exactement comment ça va se passer. Mais je voulais dire que je pense que c'est relativement rare en France puisque tout éditeur qui se respecte a un avocat qui regarde les manuscrits avant publication. Donc, c'est théoriquement pour éviter ce genre de choses.
Est-ce que vous voulez qu'on réécoute l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs c'était en 2013, Marcella Iacub qui a publié donc Belle et Bête aux éditions Stock et qui raconte sa liaison avec l'ancien président du FMI. Et effectivement, alors les avocats de DSK avaient demandé la saisie du livre, hein, ils ne l'ont pas obtenue, mais effectivement elle a été condamnée à une peine financière. On va l'écouter lisant un fameux passage de son roman.
Tu n'as suscité ma curiosité que quand la terre entière a compris que tu avais une vie secrète, que outre être un homme respectable et sans aucun intérêt, tu étais un vrai, un authentique cochon. J'avais trouvé émouvant que quelqu'un qui avait tant d'ambition, tant de choses à perdre, tant de désirs de puissance, se fasse rattraper par son autre vie.
Voilà, un authentique cochon pour la romancière dans l'émission de télévision de Frédéric Taddeï. L'écrivain Marcella Iacub s'explique. Elle a été condamnée, vous le disiez, hein, à 50 000 euros d'amende à verser à l'ancien patron du FMI. Elle n'a pas fait appel.
Les histoires privées ont toujours été à l'origine d'histoires romanesques. Hein. Et aujourd'hui, plus que jamais. Mais la vie privée des personnes publiques compte beaucoup dans les démocraties, dans la politique. C'est important de savoir, de connaître la vie privée des personnes publiques. Je racontais beaucoup moins de sa vie privée qu'ils n'ont raconté les journaux et plein d'autres livres, en fait. C'est bizarre qu'un roman suscite beaucoup plus d'animosité que d'autres types d'enquêtes.
Sacrée question, quand même. Hein.
C'est vrai que ça, c'est une grande question, parce qu'effectivement, si elle avait publié son livre, pour prendre cet exemple-là, comme une enquête et un livre, en faisant un livre documentaire, peut-être qu'elle n'aurait pas été condamnée.
Paola Martinez, vous voulez nous parler de Playboy? Ah. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi.
À propos de littérature.
Après ce petit retour dans l'histoire des romans.
Vous savez tous ces magazines qui existent depuis les années 50, dans lesquels on voyait les Playmates, ces petites
filles. Qui a cessé de paraître pendant plusieurs années d'ailleurs. Qui a redémarré il y a quelques temps.
Tout à fait. Et il y a un an tout juste, Playboy avait annoncé en fait qu'il n'allait plus publier du tout des femmes nues dans ses pages. Il a commencé, il a fait vraiment son travail en mars, d'ailleurs, dans lequel on ne voyait plus du tout des femmes nues dans ses pages, avec des tenues un peu provocatrices, mais pas des femmes nues. On n'allait pas non plus penser que lors de ses décisions, on allait voir des tricots, des je ne sais pas quoi, ça c'était pas le cas non plus. Mais justement, c'était une façon de dire, d'une part, c'est l'ère du temps, maintenant les gens, ils peuvent se procurer de la pornographie, des images beaucoup plus explicites sur Internet, sans limite et sans limite d'âge des censures. Donc, ils avaient décidé de prendre cette décision. Et ce qui m'a énormément étonnée depuis... Enfin, les ventes, ils ont augmenté depuis les 6-7 mois qu'il n'y a plus de femmes.
Parce qu'il n'y avait plus de femmes nues.
Il n'y a plus de femmes nues. Évidemment, ça a été une onde de choc pour les gens qui apprécient énormément ces magazines. J'avoue, je n'ai jamais lu un magazine Playboy. J'ai laissé
voilà un scoop. Paola Martinez nous dit qu'elle n'a jamais lu le magazine donc, Playboy.
Je peux reporter une chose qui m'a énormément étonnée. Il y a un mois, ils n'ont pas publié des photos des femmes nues, mais ils ont publié sa première femme voilée.
Alors, voilée et habillée, habillée, il faut préciser.
Tout à fait. Donc, ils ont fait un reportage parce qu'il y a des portraits des femmes, enfin, en général, des situations de vie, pourquoi on est arrivé là. Et entre autres, c'était une femme journaliste, une jeune fille très belle, assez jeune, 22 ans, journaliste américaine d'origine libyenne. Voilà, dans laquelle elle raconte son parcours, pourquoi elle est là, etc. Est-ce qu'elle aimerait faire ? Et notamment, est-ce qu'elle aimerait faire un jour ses présenter un journal voilé
sur une chaîne américaine,
sans avoir ce regard, pourquoi tu t'es voilé, etc. Donc, bien évidemment, je me suis intéressée, j'étais assez partagée parce que je vois d'une part les gens, encore une fois, la division qui peut créer une situation comme celle-ci, en disant que Playboy passe d'un extrême à l'autre, d'une part. Après,
Playboy surtout recherche des coups marketing et éditoriaux parce qu'ils
cherchent justement une question très simple. Maintenant, dans un monde capitaliste, ils cherchent à booster ses ventes. C'est ce qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas non plus à faire, la paix dans le monde, etc. Non, ils cherchent à booster ses ventes et notamment avec avec ces pages de cette femme. Il a fait beaucoup parler d'elle, le magazine. Et en même temps, ça a aussi fait partie d'une déchirement total auprès de la communauté musulmane parce qu'ils ont dit ok, on est bien d'accord, on est on est pour votre démarche de vouloir présenter votre journal voilé aujourd'hui ou peut-être dans le futur, mais pas sur le magazine qui prône d'une part la pornographie et deuxième part l'objet, la femme objet. Donc il y a créé toute une polémique. Elle s'en fiche
c'était
totalement.
C'était ce que recherchait le magazine.
C'est ce qu'il cherchait le magazine. Hein,
voilà. C'est ce qu'il cherche toujours. Et
donc conclusion, le voile fait plus vendre que le sexe.
Oui, peut-être, mais moi, je pense qu'une partie des gens qui l'ont acheté, le journal, même si elle était habillée sur la couverture, espéraient qu'à l'intérieur, on en voyait un peu plus. Bon,
d'une part.
Et d'autre part, il y a quand même... effectivement, ils cherchent toujours des scoops un peu tordus, parce que Pierrette Le Pen, souvenez-vous...
Ouais, l'ex-femme aussi de Jean-Marie
fait,
Le Pen.
Ouais, elle a aussi fait la couverture de Vogue,
en
version française.
Avec un petit tablier. Oui.
Et pas très habillée.
Effectivement. Vous restez avec nous, mesdames. Reportage dans quelques instants en Éthiopie, auprès de femmes potières de profession, et pas potiches du tout. Comment retrouver une dignité et comment faire connaître l'artisanat de leur pays. C'est un reportage de Charlie Dupiot. Ça sera juste après Mr. Wives. Came in like the breeze, I felt it in my knees. Never will it leave. Each day it is retrieved. Seems like yesterday your eyes cracked this way. Into my soul you stared and broke down every fear. We built our own house on high. Swore on that day that it'll never fall apart. We built our own house on high. With our hands over our hearts. And we swore on that day that it'll never fall apart. We'll never fall apart. We'll never fall apart. We Mr. Wife chez 7 milliards de voisins sur RFI. Reportage en Éthiopie maintenant, un pays où les femmes potières sont maudites, ça moi je ne savais pas, parfois même vues comme des sorcières, vous allez comprendre pourquoi. Un atelier a ouvert ses portes pour les femmes justement à Addis Abeba dans la capitale, c'est l'atelier Mouya, qui veut dire talent en amharique, la langue la plus parlée du pays. Il a été fondé par un français ancien professeur de dessin, Jacques Dubois, qui est installé en Éthiopie depuis près de 50 ans, et la vingtaine de femmes potières qu'il emploi viennent de Kéchéné, un village sur les hauteurs d'Addis, où l'art de mouler la terre en fait se transmet de mère en fille. Et Charlie Dupiot a visité ce refuge où, penchées en avant, les mains habiles, l'air extrêmement concentré, ces femmes damnées retrouvent leur dignité. Reportage.
On fait de tout et ce que vous êtes en train de voir, c'est des pintades. On prend un morceau de boue, après on le met au four.
Donc ce sont des petites pintades que vous faites. Là, vous êtes en train de dessiner les yeux. Elles sont arrondies. On voit leur bec aussi qui dépasse.
Je m'appelle Yeshberge Tsaga. Et ça fait 9 ans que je travaille. Maintenant, je rentre dans ma 10e année. Je viens de Kachani.
Avant de rejoindre cet atelier, qu'est-ce que vous faisiez ?
Je faisais des casseroles, des poêles, tout ce qui se faisait là-bas. Et les résultats de mon travail, je les vendais sur le marché. Les gens ne considèrent pas notre travail comme des œuvres. C'est mal vu, c'est un travail qui n'est pas considéré. Il n'y a qu'ici qu'on considère notre travail et que notre travail a un peu de valeur.
Jacques Dubois, vous avez cofondé cet atelier. Comment expliquer que ces femmes-là, potières, soient considérées comme maudites en Éthiopie ?
C'est surtout le fait que ces femmes travaillent à partir du feu. On prend de la terre dans le sol, grâce au feu, prend une autre consistance complètement différente. tout en bas de l'échelle, vous allez trouver les potières et les forgerons. On pense qu'ils ont des relations avec le diable, qui dit diable dit feu. Les gens craignent ces artisans, font en sorte qu'ils vivent en dehors des villages et restent donc isolés et marginaux. Si vous êtes sur un chemin et que vous avez des potières qui arrivent en face de vous avec leur cruche sur le dos, ces femmes sont obligées, par le poids de la tradition, de sortir du chemin pour vous laisser passer, pour leur faire bien sentir qu'elles sont inférieures. L'endroit du marché où on vend les poteries, encore actuellement, ça a un peu changé, mais on était là où tous les égouts débouchaient. Il n'y avait que les potières qui acceptaient de se mettre là parce qu'elles n'avaient rien d'autre. Et puis ensuite, vous allez avoir le tisserand. Le fait qu'il transforme le fil en travail aussi magnifique, c'est aussi quelque chose de bizarre. Souvent, on ne veut pas les marier. C'est pourquoi souvent les tisserands et les potières fondent des familles ensemble.
Entre gens maudits.
Oui, voilà. Et c'est un peu pourquoi aussi ce problème perdure. C'est un petit peu le paradoxe de cette Éthiopie que nous avons actuellement. On passe du gratte-ciel de 12 étages à des traditions qui, comme celle-là, survivent.
Salam No, bonjour. Alors vous êtes en train de peindre une pintade. Donc elle est peinte en noir. Et puis vous rajoutez des petits points blancs avec un tout petit pinceau.
C'est un petit bout de bois qu'on taille. Je le trempe dans la peinture et avec, je fais des motifs en pointillés.
Vous créez donc aussi des carafes, des tasses.
Oui, je travaille dans cet atelier depuis 9 ans. Je gagne beaucoup mieux ma vie qu'avant. Et ma vie a changé. Quand je travaillais chez moi, au village, je gagnais très peu d'argent, seulement une petite somme par semaine et je la dépensais tout de suite. Alors qu'ici, nous avons un salaire mensuel qui permet largement de payer les dépenses du quotidien. Je gagne 3500 beurs par mois, ça fait 140 euros.
C'est en fait 3 fois le salaire moyen éthiopien.
Je n'aurais jamais imaginé avoir autant d'argent entre les mains. Avec ce salaire, j'aide ma famille, j'investis dans une coopérative et puis bien sûr, je peux plus prêter attention à la façon dont je m'habille. Je peux acheter des vêtements qui me plaisent, ce que je veux.
Et on le voit d'ailleurs, vous êtes assez coquette, vous avez un pantalon turquoise, un t-shirt rose et un châle blanc sur vous.
Oui, et aussi depuis que je travaille ici, comme j'avais les dents trop en avant, en mauvais état, je me suis fait arranger la dentition. Et après cette opération, je me sens plus sûre de moi.
Vous montrez, oui, vous avez un beau sourire, de belles dents maintenant.
Le fait d'exposer ces femmes, c'est comme ça qu'elles prennent confiance. Le fait qu'elles soient économiquement bien, elles s'habillent correctement, elles mettent leurs enfants à l'école, elles habitent dans des maisons correctes comme les autres personnes, donc elles sont respectées par les voisins. Maintenant qu'elles gagnent bien leur vie, ça change beaucoup de choses. Quand elles se sont trouvées confrontées au fait que le jerrycan plastique allait leur prendre complètement leur marché, parce que leur marché, c'était surtout la cruche à eau qui permettait d'amener l'eau dans les villages de la rivière à la maison. La cruche à eau en terre était poreuse, était lourde, elle casse, alors que le jerrycan plastique a tous les avantages, si on peut dire.
Donc c'est un bidon en plastique, en fait.
Complètement. Mais ces femmes, si elles ne font plus de cruche à eau, qu'est-ce qu'elles font? Le mérite, si je peux dire, qu'on a eu ici, c'est de leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas entrer en concurrence avec les produits d'Asie du Sud-Est. Par contre, vous pouvez trouver un marché différent avec les gens qui ont les moyens ici, qui comprennent votre culture, les étrangers, la diaspora. On va faire autre chose, tout en conservant le caractère et le style de vos poteries, mais quelque chose de différent. Quand elles se disent maintenant, finalement, nous sommes peut-être des artistes, là je dis on a gagné. Ce qui me satisfait le plus, si vous voulez, c'est qu'on a prouvé que c'était possible. Maintenant, pour passer à une autre vitesse, c'est pas une petite société comme la nôtre. Il faut vraiment une volonté politique, comme l'ont fait beaucoup de pays, comme l'Inde, comme le Maroc. L'Éthiopie a tous ses savoir-faire qui sont là, mais si personne ne les fait évoluer, ben malheureusement, ça va disparaître.
Reportage signé Charlie Dupio à Addis Abeba. Et l'atelier Mouya exporte 90% de ses poteries, mais aussi des tissages d'ailleurs, qui sont aussi réalisés d'ailleurs par des tisserands, des hommes pour la plupart. Et c'est un artisanat qu'on peut retrouver vendu en Europe, même en Australie ou même au Japon. Paola.
Je suis tout à fait émue parce que ça m'a fait penser aussi à l'artisanat en Amérique latine. Il y a énormément des tribus encore, des femmes indigènes qui font un travail formidable avec leurs mains. Et aujourd'hui aussi, ils ont, via des coopératives ou des associations comme celle-ci, en fait, des ateliers qui leur ont redonné un goût pour ce travail.
Mais c'est très structuré maintenant.
C'est
sur
très
votre
structuré, c'est très structuré, mais. Au-delà des structures, on peut dire parfois un peu pyramidales qu'on peut retrouver dans ces sortes de démarches, il y a quand même ce qui, moi, je retiens surtout, c'est rendre possible, en fait, que ces femmes puissent se sentir utiles et travailler et avoir un peu d'argent pour améliorer leur quotidien via, justement, cet artisanat qui les tient tellement à cœur et qui, en plus, au-delà des côtés très philanthropiques, on peut dire, entre guillemets, c'est beau, c'est vraiment beau. Et de préserver une culture qui, malheureusement, il dit bien le monsieur, à côté il y a des gratte-ciel et une tradition qu'il faut perpétrer. Et ça, justement, je trouve que c'est formidable comme initiative.
Et faire prendre conscience aussi à la population de la valeur de son artisanat plutôt que de devenir juste la Chine de l'Afrique.
Moi, ça m'a fait. Je suis d'accord d'abord que c'était très émouvant. Et en particulier, je trouve, quand, à partir du moment où elles se disent finalement, on est artiste. C'est ça qui est merveilleux.
Passer de paria à artiste.
Exactement, ça, c'est merveilleux. Moi, ça m'a rappelé une coopérative un peu similaire que j'ai vue au Maroc. Où il faisait l'huile d'argan et des produits à base de huile d'argan. Et c'était aussi avec une visée très, très sociale en même temps, parce que les femmes qui travaillaient là, et avec eux des femmes, étaient des femmes qui étaient répudiées pour une raison ou une autre par leur famille, qui autrement auraient été toutes seules, et qui là ont trouvé une raison d'être et gagner de l'argent. Et je me suis dit que c'est ce genre de choses qu'on devrait faire pour les pays en voie de développement.
Merci à vous les tchatcheuses. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera d'éducation comme chaque vendredi. L'école en Haïti contre cyclone et abandon politique. Comment rendre l'éducation plus accessible aux familles haïtiennes? On en parle demain en direct chez 7 milliards.
Autour de la question.